me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace.
Help
me find the way. Bring me back to you.
Chers amis, que Dieu vous bénisse. Je suis Abanga Onana. Le salut des nôtres est promis. Tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. À tous ceux parmi nous qui ont des enfants, des parents, des amis, des voisins et autres collaborateurs qui ne sont pas sauvés et qui mènent une vie qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ, sachez que Dieu aime vos enfants et vos bien-aimés plus que vous les aimez. Dans Ézéchiel 33, au verset 11, nous lisons ceci. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël ?» Il y a trois choses importantes que nous devons savoir à propos du salut de nos bien-aimés. D'abord, c'est la volonté de Dieu que tous nos bien-aimés soient sauvés. 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 9 nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu ne prédestine donc pas certains de nos bien-aimés au salut et d'autres à la perdition. 2. Le salut est le don de Dieu pour tous ceux qui font sa volonté. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 7 au verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pour cela que Dieu appelle sages tous ceux dont les pieds sont agiles pour annoncer son évangile de salut à toute l'humanité. 3. Le message du salut de tout notre être et de la démonstration de la puissance de Dieu à tous doit être effectif. Marc 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le message du salut doit commencer dans nos domiciles, avec notre conjoint, avec nos enfants et avec nos parents proches. Ensuite, nous passons à la famille large et à tous nos bien-aimés, oncles, tantes, cousins, cousines, voisins, camarades, collègues de service, amis et ennemis. Dieu veut que chaque croyant le serve, lui et toute sa maison. Et le Saint-Esprit nous le révèle aujourd'hui, comme il l'a fait hier à Josué. Josué 24, à partir du verset 14. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Quel est le révérend, quel est l'archevêque qui dans le monde aujourd'hui dépasse Josué? Quand le Seigneur m'a sauvé le 18 octobre 1989, j'étais alors le seul sauvé de ma famille au milieu de plusieurs religieux, parfois très zélés. Et du coup, il y avait une grande tension dans la famille. Jésus était devenu le Seigneur et le roi de ma vie. Mais ma famille, fortement religieuse dans le christianisme et surtout animiste, ne le comprenait pas, ne le tolérait pas et me persécutait pour cela. Heureusement que je ne dépendais plus d'eux et que c'est eux qui dépendaient plutôt de moi. Dieu ne manque pas d'humour. Certains, pourtant membres du christianisme, baptisés et confirmés dans la religion, m'ont même demandé de choisir entre Jésus et eux. Si nous ne te mettions pas au monde, tu allais connaître ton Jésus là où? Quand tu étais très malade, tu as été hospitalisé, nous y étions avec toi. Où était ton Jésus là? Si on te laissait mourir quand tu étais enfant sans t'amener à l'hôpital, tu allais connaître ton Jésus là où? C'est nous, ton Jésus. Oh là là, Seigneur, aie pitié de ceux de mes parents qui parlent encore comme cela. Certains foyers de cette persécution demeurent encore actifs jusqu'à présent, inspirés comme ils le sont par la religion et par le prince de ce monde des ténèbres. Ils ne m'ont jamais pardonné d'avoir abandonné les idoles païennes de notre tribu, d'avoir abandonné la fornication et l'adultère, d'avoir abandonné le culte aux morts et celui aux multiples dieux des coutumes ancestrales, pour ne plus vénérer, louer, adorer, suivre et servir que le Seigneur Jésus-Christ seul. Mais quelques années après, tous mes enfants ont reçu Christ à leur tour. Mon grand frère, gravement malade, a reçu Christ quelques mois avant sa mort. Mon grand cousin maternel a reçu Christ depuis plusieurs années. Il est déjà dirigeant d'assemblée et est même devenu plus zélé que moi. Deux de mes oncles, un à Douala et l'autre au village, ont reçu Christ dans leur lit de malade avant leur mort. Mon beau-père a reçu Christ dans son lit de malade quelques semaines avant sa mort. Certains de mes amis et anciennes concubines ont suivi en abandonnant la mort pour choisir la vraie vie en Jésus-Christ. Ma nièce, qui était partie du village pour venir résider avec moi en ville, a reçu Christ dans sa vie. Au milieu des persécutions les plus diaboliques, elle s'est mariée à un enfant de Dieu et est aujourd'hui mère de plusieurs enfants, la seule mariée de la maison de son père, au milieu de plusieurs frères et sœurs célibataires, dont elle n'est pas l'aînée. Certains de mes cousins, nièces et tantes ont aussi suivi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis père spirituel de plusieurs centaines d'enfants spirituels en Jésus-Christ. Plusieurs sont déjà devenus des pasteurs. Au moment où je vous parle, le gros de la troupe de mes bien-aimés n'est pas encore sauvé. Mais la promesse de Dieu est là et nous continuons à travailler nuit et jour pour cela. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Jérémie 1:12 nous dit que Dieu veillait sur sa parole pour l'exécuter. L'une des plus grandes révélations de la parole de Dieu est que le salut n'est pas promis seulement aux individus d'une famille, mais à toute la famille. Dans Actes 10, Corneille, un Romain à la recherche du salut, avait réuni tous ses parents et ses amis intimes pour recevoir l'apôtre Pierre qui devait venir lui prêcher l'évangile de Jésus-Christ qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et dans Actes 16, à partir du verset 31, Paul et Silas répondirent au geôlier qui, quelque temps encore avant, était leur bourreau, au geôlier qui leur avait posé la question de savoir ce qu'ils devaient faire pour qu'ils soient aussi sauvés. Paul et Silas lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu demanda à Moïse d'ordonner ceci au peuple. Exode 12 au verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. L'agneau était disponible pour toute la maison et non seulement pour le chef, le père, la mère, un fils ou une fille. Aujourd'hui comme hier, si une personne reçoit Jésus, l'agneau de Dieu est disponible pour tous ceux de sa maison, parents, boys, blanchisseurs, cuisiniers, gardiens et chauffeurs. Chers amis nés de nouveau qui m'écoutez, sachez que votre famille et votre entourage ont des privilèges spéciaux parce que vous êtes déjà sauvés. Dieu avait demandé à Noé de construire l'arche pour sauver toute sa famille et non lui seul. Hébreux 11, à partir du verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Dans un monde rempli d'iniquité, comme le nôtre aujourd'hui, dans un monde rempli d'individus incrédules, comme le nôtre aujourd'hui,
oui,
dans un monde rempli d'incrédules qui déclarent pourtant tous croire en Dieu, Noé fut le seul homme à trouver grâce aux yeux de Dieu. Chers amis, je vais prier avec vous pour que à la fin de ce message, que vous soyez peut-être le seul homme qui va trouver grâce aux yeux de Dieu dans sa maison, dans sa famille, dans son village, dans sa nation. Genèse 6, à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir fait. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et dans Genèse 7 au verset 1, l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » C'est la foi de Noé qui permit à toute sa famille d'être sauvée en recevant la grâce que Dieu lui accorda, lui et toute sa maison. Si sa femme n'était pas sa femme, ou si elle était rentrée chez ses parents en abandonnant son foyer conjugal, si elle n'était pas soumise à son mari en toutes choses, si ses trois fils n'étaient pas ses fils et des enfants obéissants qui honorent leurs parents, si ces trois belles filles n'étaient pas les siennes, ils auraient tous péri avec le reste du monde en refusant de suivre Noé dans l'arche, parce que le jugement et la condamnation du monde par Dieu avaient déjà été prononcés. Personne ne pouvait plus intercéder, personne ne pouvait plus se repentir, seul Noé et les siens. Plusieurs siècles après, l'apôtre Pierre écrit dans 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies comme le nôtre aujourd'hui. » Combien de personnes furent sauvées par l'arche de Noé? 8 personnes. Les trois fils de Noé, ses trois belles filles, son épouse et Noé lui-même. Dieu plaça Noé au 8e rang, c'est-à-dire le dernier à être sauvé, le dernier de sa famille à entrer dans l'arche du salut. Noé veillait pour que toute sa famille entre dans l'arche. Et alors, il fut le dernier à y entrer. Et la porte de l'arche se ferma. C'est Dieu lui-même qui ferma la porte. Aucun homme ne peut fermer la porte de l'arche du salut. Aucune dénomination ne peut la fermer, ni la vôtre, ni la mienne. Quand le dernier gentil sera sauvé, alors commencera la période de 7 ans de la tribulation. C'est quand Noé entra dans l'arche et que Dieu la ferma que le déluge vint sur la terre. C'est Noé seul qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu et non son épouse, ni ses fils et ses belles-filles. Le Seigneur se préoccupe-t-il des familles de tous ceux qui croient en lui et trouvent grâce à ses yeux? Oui! Rien qu'une seule personne est juste et Dieu fait le reste. Au rythme accéléré où les prophéties bibliques de la fin des temps se réalisent sous nos yeux, nous nous demandons peut-être, « Mes enfants, mes parents, mes bien-aimés, ma belle famille, mes voisins, mes collègues de service seront-ils sauvés avant la destruction qui va s'abattre bientôt sur la planète Terre ?» Abraham, le père d'Israël et de tous les croyants en Christ, était un homme juste. Mais son neveu Lot avait choisi de vivre une vie pécheresse à Sodome et Gomorre, la plus immorale et pervertie de toutes les cités dans le monde. Mais Dieu se souvint d'Abraham, le juste, quand il décida de détruire Sodome. Genèse 19 au verset 29 dit, « Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. » C'est parce que Dieu se souvint des prières d'Abraham le juste que Lot fut sauvé de la destruction. La relation entre Abraham et Dieu permit la délivrance de Lot. Genèse 18, verset 32. Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. » Abraham intercédait. parce que les membres de sa famille étaient à Sodome et Gomorrhe que Dieu voulait détruire. Chers amis, intercédez nuit et jour pour vos bien-aimés qui sont en Canaan, au quartier Mozart, dans les boîtes de nuit, dans les endroits où le chanvre est fumé, où les boissons enivrantes sont bues, dans les hôtels de passe, chez les marabouts, dans les coutumes des traditions ancestrales et païennes. Intercédez pour vos bien-aimés qui adorent les dieux des ancêtres, alors que quand ils viennent à l'église le dimanche, ils confessent du bout des lèvres qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais rentrés dans leur famille, ils commencent à adorer plusieurs dieux de leurs ancêtres qui en réalité ne sont que des démons. S'il y a un seul Dieu, toute cette multitude de dieux que chacune de nos tribus vénère ne sont que des démons. Que le Seigneur ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Chers amis, si nous sommes de la postérité d'Abraham en Jésus-Christ, nous avons les mêmes promesses et les mêmes bénédictions et les mêmes droits qu'Abraham. Dieu se souviendra de nous à cause de nos prières, de notre intercession, pour ne pas détruire nos bien-aimés avec le monde. Si nous voulons voir la multitude d'âmes humaines se repentir et recevoir Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur, devenons des intercesseurs pour le monde, pour notre pays, pour nos bien-aimés, pour nos parents, pour nos enfants. Si nous sommes déjà nous-mêmes en paix avec Dieu, c'est-à-dire de la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Nous sommes la postérité d'Abraham et avons sa position pour intercéder victorieusement en faveur de nos bien-aimés si nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. Parce que Galates 3 au verset 28 dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous sont un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Merci Seigneur Jésus. Si nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, chaque lot dans notre famille est très important aux yeux de Dieu. Comme Abraham, devenons des intercesseurs. Ainsi, les faveurs et la miséricorde de Dieu se manifesteront dans la vie de tous les lots qui sont nos bien-aimés. N'oublions jamais que notre relation avec le Seigneur affecte nos bien-aimés. Qui va donc se tenir sur la brèche? Si nous voulons un aperçu de comment Dieu voit ceux qui ne vivent pas pour lui, si nous voulons un aperçu de comment Dieu voit nos bien-aimés qui ne vivent pas pour lui, lisons Ézéchiel 22 à partir du verset 26. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ses prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent. Foule l'étranger contre toute justice. Voilà comment Dieu voit nos bien-aimés qui ne vivent pas pour sa gloire. Mais Dieu cherchait-il une grande armée ou une foule d'intercesseurs pour sauver le peuple de la destruction? Non, il recherchait un seul croyant, une seule personne juste dans cette maison, dans cette famille, dans ce village, dans cette église, dans cette nation, dans cette dénomination. Il dit au verset 30 d'Ézéchiel 22, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du peuple, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Quelle catastrophe! Que Dieu cherche quelqu'un qui puisse se tenir à la brèche par l'intercession en faveur de votre famille, en faveur de votre maison, en faveur de votre quartier, en faveur de votre église ou de votre dénomination, et il n'en trouve point. J'allais oublier, et en faveur de votre parti politique, puisque c'est la politique qui est à la mode de nos jours. Dieu ne trouve pas de plaisir dans la mort du méchant. C'est pour cela qu'il recherche vous et moi comme des intercesseurs, si nous sommes nés de nouveau. Si nous démissionnons ou refusons de répondre à son appel, il ne reste plus à Dieu qu'un devoir de plaisant. Lequel? Dans le verset 31, il dit « Je répandrai sur eux ma fureur. » Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leur œuvre sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Chers amis, si vous êtes vraiment un tribaliste, intercédez au moins pour votre tribu afin qu'elle n'aille pas en enfer. Quel est ce tribalisme qui n'est actif que pour le partage charnel du gâteau national? Jésus disait, vous me suivez parce que vous avez vu que je multiplie les pains et les poissons, mais vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie éternelle. Chers amis qui m'écoutez, peut-être que vous priez pour un ou plusieurs de vos enfants prodigues. Votre fille ou vos filles sont peut-être devenues des prostituées, des arracheuses de maris, des astrologues, des reines-mères, des voyantes, des voleuses, malgré leurs responsabilités, leur honneur et leur grade dans la religion et dans la société. Elles sont peut-être devenues des lesbiennes, des homosexuels au féminin. Peut-être que vos fils sont devenus des hors-la-loi, des repris de justice, des homosexuels, des coureurs de jupons et autres trafiquants de drogue. Peut-être êtes-vous préoccupé par la condition spirituelle de vos parents, de ceux de votre famille et de votre église qui marchent en ennemi de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Voici 5 étapes pour une intercession effective pour eux. D'abord, la première étape, établissons une relation personnelle avec Dieu. Dieu avait dit à Job, qui avait enduré un test incroyable de sa foi, dans Job 22 au verset 23. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta maison. Verset 26. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Point. Et dans Proverbe 1, Dieu exige de nous une communion parfaite avec lui. Nous lisons Proverbe 1 à partir du verset 24. Dieu dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Et comment ne pas lire Proverbe 28 au verset 9? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Deuxième étape pour une intercession effective. Développons notre vie de prière. Dans Luc 18, le Seigneur lui-même nous dit au verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 14, nous lisons « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Il s'agit de développer notre vie de prière. Verset 15 « Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans nos différentes dénominations, nous avons tendance à chanter et à prier seulement avec l'intelligence. Les chants et les prières par l'esprit sont même bannis. Chers amis, méfions-nous d'obéir aux hommes, à nos gourous spirituels et non au Saint-Esprit. Éphésiens 6 nous dit pourtant, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Étape numéro 3 pour une intercession effective. Lisons, étudions, méditons, confessons, proclamons et mettons en pratique la parole de Dieu. Dans Josué 1, à partir du verset 7, le Seigneur recommandait déjà à Josué les mêmes choses qu'il nous recommande aujourd'hui. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 19, enfonce le clou en ces termes. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Point. Quatrième étape pour une intercession effective. Exerçons notre autorité spirituelle. Parce que Jésus nous dit que ce que nous lions sur la terre est lié au ciel. Et ce que nous délions sur la terre est délié au ciel. Et dans Luc 9, à partir du verset 1, nous lisons. Jésus ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Voilà nos lettres de créance. En tant qu'ambassadeur du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Et dans Luc 10, au verset 19, il enfonce le clou et dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia! Amen! Et Luc 16, à partir du verset 16, enfonce le clou toujours, s'agissant de notre autorité en tant que postérité d'Abraham en Jésus-Christ. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. 5. Portons secours à nos bien-aimés. Instruisons nos enfants dans le Seigneur. Voilà déjà un secours élémentaire. Proverbe 22 au verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et Éphésiens dit que nous devons instruire l'enfant selon le Seigneur. La Bible ne dit pas ceci, instruire l'enfant selon les cases secrètes, selon les coutumes ancestrales. Ce n'est pas ça que la Bible dit ici. Si nous lisons Éphésiens 5 et 6, la Bible dit là-bas que nous devons instruire nos enfants selon le Seigneur, selon la parole de Dieu, dans ses 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. Celui qui ne prend pas soin de ceux de sa maison est pire qu'un infidèle. C'est ce que la Bible continue à nous dire. Et dans 1 Timothée 3, au verset 4, nous lisons que pour que quelqu'un soit un ancien d'église ou un pasteur, pour que quelqu'un arrive à un niveau où il va paître la maison, la famille de Dieu dans une assemblée quelconque, il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Éphésiens 6, au verset 4 dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur, et non selon les marabouts, et non selon les cercles ésotériques, et non selon les coutumes antichrist de nos familles. » Chers amis, vous qui allez présenter vos enfants au baobab du village ou au crâne, aux ossements humains de vos parents morts, c'est vous qui êtes en train de dédier vos enfants ainsi à Satan. Quel Cameroun pour nos enfants! Un Cameroun plein de sorciers à tous les niveaux. À qui la faute? À vous et à moi? Parce que nous ne voulons pas instruire nos enfants selon le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous les instruisons selon le diable. Et quand la pauvreté sévit, quand les crises économiques sévissent, quand les détournements de fonds sévissent, alors nous sommes les premiers à nous plaindre. Pourquoi pleurons-nous encore? Nous avons des enfants, des têtes pleines. Chacun d'entre nous veut envoyer cet enfant dans les plus grandes universités séculières. Il n'y a pas de mal à cela. Et nos enfants ressortent de ces universités avec des têtes pleines de sociologie, de mathématiques, de philosophie, de chimie, d'algèbre, d'astronomie, d'informatique et les cœurs vides du Seigneur Jésus-Christ et pleins du serpent ancien. Consultez la liste des présumés homosexuels. Consultez la liste de tous ces victimes de l'opération Épervier. Ce sont des grosses têtes. Parfois, il y a des professeurs d'université, des grands commis de l'État qui parfois sont très compétents dans le travail séculier qu'on leur donne de faire. Mais comme ils n'ont pas été instruits selon le Seigneur, ils ont été instruits selon l'Église, selon leur dénomination, selon les dogmes de leur religion. Mais ils n'ont pas été instruits selon le Seigneur. Des têtes pleines, mais des cœurs vides du Seigneur Jésus-Christ. devons prendre soin des nôtres si nous voulons qu'ils héritent du salut. Femmes, est-ce que vous prenez soin de vos maris non-croyants? Dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 1, la Bible dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole de Dieu, qu'ils soient gagnés sans parole par votre conduite, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Tant que les femmes chrétiennes de nos églises ne seront pas chastes et réservées, elles seront les boulevards qui conduisent leurs maris non-croyants en enfer. 1 Timothée 5, à partir du verset 8, dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Pour gagner nos bien-aimés au Seigneur Jésus-Christ, il faut donc l'intercession et surtout le bon témoignage. Nous devons témoigner par notre vie de sanctification. Nous devons témoigner par la proclamation de l'Évangile. Nous devons témoigner en faisant que notre lumière brille devant tout le monde. Et c'est ainsi que tout le monde va être gagné à Christ au moment où Christ les visitera. C'est ce que dit Matthieu chapitre 5 verset 16. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Nous devons donc prier pour qu'il y ait assez de prédicateurs, nés de nouveau, remplis de l'Esprit Saint et oints. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Romains 10 à partir du verset 13. Si nous avons cru, nous avons le privilège et la responsabilité de prêcher Jésus à tous nos bien-aimés. Pour cela, nous devons briser tous les liens de l'animisme, du monde, de la religion et de tous les autres liens sataniques qui les aveuglent et les maintiennent dans l'esclavage du péché. Il faut briser les liens. Dans les Écritures, il y a 5 voies principales par lesquelles les pécheurs deviennent des captifs. 1. Ils sont liés par les penchants du monde. Les non-croyants sont esclaves de tout ce que le monde offre. Ils deviennent des esclaves du matérialisme, du divertissement qui ne glorifie pas Dieu et d'une multitude d'autres vices. Éphésiens 2, à partir du verset 1 dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Chers amis, nous devons sans cesse intercéder pour nos bien-aimés non-croyants en brisant et en annulant au nom de Jésus-Christ les liens des penchants et de l'amour du monde dans leur vie. 2. Nos bien-aimés sont liés par la volonté de Satan. Satan règne en maître suprême dans la vie des non-croyants, contrôlant leurs pensées, leurs motifs et leurs actions partout et à tout moment. 1 Timothée 2 au verset 24 dit « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce combat se passe au niveau des mentalités et des imaginations. Dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3, la Bible dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Chers amis, la meilleure façon de critiquer, c'est de faire nous-mêmes comme nous voulons que ce que nous critiquons fasse. Et quelqu'un a dit, pour illustrer cela, enlevons d'abord la grosse poutre qui est dans notre œil avant de chercher à aller enlever la paille qui est dans l'œil du voisin. Nous devons sans cesse intercéder pour nos bien-aimés non-croyants en brisant et en annulant au nom de Jésus-Christ la volonté de Satan dans leur vie. 3. Nos bien-aimés sont liés par les convoitises de la chair et des yeux et par l'orgueil de la vie. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15 dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Par convoitise, Paul se réfère ici à l'amour de l'argent, à l'orgueil de la vie, au sexe et à tous les autres désirs de la chair. Ne soyons pas surpris si nos bien-aimés non sauvés sont esclaves de ces choses. Quand nous parlons ici de sexe, nous parlons du sexe en dehors du mariage. En intercédant pour eux, au nom de Jésus-Christ, délions les liens de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. 4. Nos bien-aimés sont exposés à la colère de Dieu. Jean chapitre 3 au verset 36 dit, « Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et Éphésiens 2, à partir du verset 3, que nous avons lu tantôt, dit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Tous ceux qui aiment et demeurent dans le péché ne plairont jamais à Dieu. Ils déçoivent Dieu et brisent son cœur. Comment pouvons-nous donc atteindre tous ces bien-aimés qui sont enlacés par ces différents étaux du péché? Si nous voulons vraiment que nos bien-aimés soient sauvés, prenons leur place devant Dieu. Représentons-les devant Dieu. Nous devons nous identifier à eux dans leurs transgressions, dans leurs problèmes et dans leurs misères. C'est ça, avoir le fardeau pour les âmes. Nous devons aimer les âmes perdues. Jésus-Christ a quitté son trône pour venir s'identifier à nous dans notre boue du péché. Il est venu s'identifier à nous dans les latrines où nous étions comme les asticots dans les excréments. Voilà le vrai amour. C'est comme ça que tous ceux qui sont sauvés et qui ont l'esprit de Jésus, c'est comme ça qu'ils doivent aimer les non-croyants. C'est comme ça qu'ils doivent avoir des fardeaux pour les âmes non sauvées. Nous ne sommes pas là pour les juger. Il est normal qu'un païen se comporte contrairement à la volonté de Dieu. Mais c'est à nous d'apporter suffisamment de lumière pour chasser les ténèbres de sa vie. Nous devons nous identifier à eux dans leurs transgressions, dans leurs problèmes et dans leurs misères. Paul disait qu'il était avec les faibles sans être faible. Il était avec les pauvres sans être pauvre. Il était avec les incrédules sans être incrédule. Il était avec les buveurs de harki sans être buveur de harki. Il était avec les fornicateurs sans être fornicateur, mais dans le seul but de pouvoir sauver quelques-uns parmi eux. Paul n'a pas dit qu'il forniquait avec les fornicateurs, qu'il buvait le harki avec les buveurs de harki, qu'il fumait le chanvre avec les fumeurs de chanvre. Paul n'a pas dit qu'il adorait les dieux des ancêtres avec ses parents, mais il était au moins avec eux, présent avec eux, cherchant la faille pour pouvoir leur communiquer le message de la vie éternelle en Jésus-Christ. Comment est-ce que le sel de la terre que nous sommes, comment peut-il stopper la corruption du monde s'il reste distant, s'il reste dans son pot? Le sel de la terre doit sortir de son pot et entrer en contact avec la matière en décomposition pour stopper cette décomposition. Quand le comprendrons-nous? Sortons de nos couvents et allons. Jésus a dit, allez en contact avec la pourriture du monde. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Dans Zacharie 4, verset 6. Nous devons nous identifier à eux dans leurs transgressions, dans leurs problèmes et dans leurs misères. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons mesurer l'ampleur de la condition horrible où ils sont. J'étais comme toi, mon frère, ma mère, ma soeur, mon enfant. J'étais comme vous, mais en Jésus-Christ, je suis maintenant libéré. Et je ne vais plus rentrer manger ce que j'ai déjà vomi. J'étais comme vous, chers voisins, chers collègues de service, chers camarades de parti politique. Jésus a pris nos péchés sur lui et les a détruits. Et aujourd'hui, il nous demande de prendre la position de nos bien-aimés dans l'intercession. Tenons-nous à la brèche en leur faveur et prenons autorité sur leur situation et conditions présentes. Prenons autorité, réprimons et chassons au nom de Jésus-Christ l'esprit du monde qui contrôle nos bien-aimés. Ne le faisons pas une seule fois, mais régulièrement, quand nous intercédons, quand nous prions sans cesse. Voici la promesse de Dieu pour nous soutenir dans ce combat impitoyable et rude qui durera certainement pendant tout notre séjour dans ce monde. Jérémie 31 au verset 16. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Chers amis, ayons la foi et accrochons-nous à ce passage biblique. Et nuit et jour, intercédons pour nos bien-aimés non sauvés, pour nos bien-aimés perdus, pour nos bien-aimés aveuglés par le monde, pour nos bien-aimés incrédules, pour nos bien-aimés qui adorent les dieux des ancêtres qui sont des démons. Parce que nous intercédons, les membres de nos familles reviendront du territoire de l'ennemi. Pendant que nous intercédons, nous renversons les forteresses du monde. Nous brisons la volonté de Satan, la volonté de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie et la colère de Dieu dans leur vie. C'est cela le véritable combat spirituel. Seigneur Jésus, comme Noé et Abraham avant moi, je me tiens à la brèche en faveur de mes enfants, en faveur de mes bien-aimés, en faveur de mes voisins, en faveur de mes collègues de service, en faveur de mes frères et sœurs, en faveur des membres de ma dénomination qui ne sont pas nés de nouveau. À cause du sang de l'agneau versé, je te demande de les délivrer de la volonté de Satan. Je recouvre tous mes enfants naturels, adoptifs, légitimes et spirituels, et tous mes bien-aimés par la parole prophétique de Dieu qui est plus certaine pour moi que toute autre expérience et autre doctrine. Au nom de Jésus-Christ, amen. Chers croyants nés de nouveau qui m'écoutez, vous êtes responsables du salut de votre fils ou fille dévergondée, de votre mère, de votre père alcoolique, membre d'église mais allergique à la proclamation de la Bible. Vous êtes responsables de leur délivrance des griffes de Satan. Si vous êtes pasteur d'une assemblée chrétienne, en plus de ceux de votre maison, vous êtes aussi responsable du salut de chaque membre de votre congrégation. Tôt ou tard, Dieu vous en demandera des comptes. Ils sont enchaînés et ne peuvent rien pour eux-mêmes, mais vous êtes libres et pouvez tout pour eux. Quand ils sont hospitalisés, cloués dans un lit de malade ou dans le coma médical, vous prenez soin d'eux à 100%. Vous les lavez, nettoyez, garnissez et nourrissez parce qu'ils ne le peuvent pas d'eux-mêmes. Pourquoi ne faites-vous pas la même chose pour leur apporter le secours et l'assistance spirituelle quand ils sont liés par le péché et quand ils sont plongés dans le coma spirituel par Satan? Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la force et le pouvoir sur Satan et sur tous les démons, nous avons ainsi la puissance pour détrôner le prince de ce monde des ténèbres de la vie de nos bien-aimés. Nous pouvons briser la volonté du diable parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans Luc 10, par exemple, à partir du verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » En tant qu'individu, nous ne sommes pas responsables du salut de tous les pécheurs du monde entier. Mais Dieu nous exige de lui réclamer la justification de nos bien-aimés vivant encore dans ce monde. 2 Timothée 1, au verset 8. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. » Point. Pendant que nous évangélisons nos bien-aimés, disons-leur qu'ils ne sont pas les seuls perdus et candidats en enfer dans le monde. Disons-leur que le monde entier est dans le même esclavage du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est ce que la Bible nous dit, Jean 8, verset 34. Et le monde entier est sous la puissance du diable, le malin. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Mais en même temps, proclamons-leur que tout est accompli pour notre rédemption et pour leur justification. Romains 3 que nous avons lu au verset 24 dit, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ésaïe 53 dit, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Tout est accompli. Il n'y a de salut et de bénédiction qu'en Jésus-Christ seul. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 1 Jean chapitre 5 au verset 9 dit, « Le témoignage de Dieu est plus vrai que celui des hommes. Et voici ce témoignage de Dieu. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Pendant que nous prêchons la parole de Dieu à nos bien-aimés, pendant que nous brisons les liens démoniaques dans leur vie, ils commencent à s'ouvrir. Et c'est à ce moment-là que Satan va leur donner des objections pour essayer de justifier pourquoi ils ont peur de donner leur vie à Christ. Aidons-les dans leurs objections. Nous entendrons certains parmi eux dire, par exemple, « Je serai persécuté par ma famille, par mes employeurs, par mon mari, si je donne ma vie à Christ. » Voici la réponse de Dieu pour eux dans Romains 8 au verset 17. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On les entendra aussi dire, la vie chrétienne authentique est très difficile et pénible. Voici la réponse de Dieu pour eux dans 1 Jean chapitre 5 au verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et Matthieu 11, verset 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Chers amis, je vous conseille le fardeau de Jésus, qui est léger. Et non celui du monde, qui paraît léger, mais qui est écrasant et qui finit par écraser tous ceux qui le portent et qui ne veulent pas venir à Jésus-Christ. Nous entendons encore d'autres dire, je suis encore très jeune pour donner ma vie à Christ. Voici la réponse de Dieu pour eux. Ecclésiaste 12, verset 1. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent. Où tu diras, je n'y prends point plaisir. Nous entendons encore de, il y a beaucoup d'hypocrites dans l'Église. Voici la réponse de Dieu pour eux dans Romains 14 au verset 12. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Point. Nous entendons encore de, j'ai fait des choses horribles. Je ne crois pas que Dieu puisse pardonner le genre de péché que j'ai commis. Voici la réponse de Dieu pour eux dans Jean chapitre 6 au verset 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous entendons encore de, il est trop tard pour que je sois sauvé. Voici la réponse de Dieu pour eux dans Luc 23, à partir du verset 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il s'agit du larron sur la croix, quelques instants avant qu'il ne meure physiquement pour quitter ce monde. Il donna sa vie à Christ et il est désormais au paradis avec Jésus. Nous entendons encore certains de nos bien-aimés dire, « Donnez-moi du temps pour que je réfléchisse. » Voici la réponse de Dieu pour eux, Ésaïe 55 au verset 6. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Et dans Proverbe 29 au verset 1, un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Chers amis, nous terminons ce message en parcourant les promesses de Dieu pour le salut de nos bien-aimés. N'oublions jamais que Dieu qui a fait la promesse est toujours fidèle, selon Hébreux 10 verset 23. Appuyons-nous sur ses promesses pour lui demander dans la foi ce qu'il nous a promis. La liste de ses promesses pour le salut de nos bien-aimés. D'abord, c'est sa volonté parfaite que nos enfants soient sauvés. Dans le psaume 72, au verset 4, il dit, « Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. » 2. C'est sa volonté parfaite que nos enfants expérimentent sa gloire. Nous le trouvons dans le psaume 90, au verset 16, « Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. » Et ta gloire sur leurs enfants. 3. Dieu veut que nos enfants et petits-enfants s'affermissent devant lui. Nous le trouvons dans le psaume 102 au verset 28. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira devant toi. 4. Pour ceux qui craignent l'Éternel, ses bénédictions sont sur leurs enfants. Nous le trouvons dans le psaume 103 à partir du verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde sur les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. 5. Le Seigneur nous bénira avec nos enfants. Nous le trouvons dans le psaume 115 du verset 12 au verset 14. 6. Nos enfants auront autorité sur Satan et sur tous leurs ennemis. Nous le trouvons dans le psaume 127 du verset 3 au verset 5. 7. L'oppresseur dans la vie de nos enfants sera écrasé. Nous le trouvons dans Ésaïe 49 au verset 17. 8. L'Éternel combattra nos ennemis et sauvera nos enfants. Ésaïe 49 du verset 22 au verset 26. 9. La paix de Dieu reposera sur nos enfants. Ésaïe 54 à partir du verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. 10. Nos enfants seront nourris par la parole de Dieu. Nous le trouvons dans Ésaïe 60, du verset 4 au verset 5. 11. Nos enfants seront oints par Dieu lui-même. Ésaïe 44, à partir du verset 1. Écoute maintenant, ô Jacob, que chacun d'entre nous mette son nom à la place de Jacob. Écoute maintenant, ô Abanga Onana, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Abanga Onana, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme des poissons près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom d'Abanga Onana. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions? Qui le déclare et me le prouve? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien. 12. Pour nos enfants et pour tous les autres bien-aimés, pasteurs, évangélistes, charnels, non nés de nouveau, membres sincères des églises, mais non sauvés, ouvriers dans la vie du Maître, nous devons prier pour eux, selon Éphésiens 1, à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Au nom de Jésus-Christ, amen. Chers amis, voici donc venu le temps de vous tenir à la brèche en faveur de vos bien-aimés et de les conduire à Christ. Par ce message, le Seigneur nous a remis devant nos responsabilités si nous sommes nés de nouveau. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Seul, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui nous conduit dans toute la vérité. Quel que soit donc l'endroit où vous êtes, je vais prier avec vous pour que si vous n'êtes pas encore né de nouveau en Jésus-Christ, que vous le soyez. Ce n'est que ceux qui appartiennent à Christ qui peuvent intercéder en faveur de leurs bien-aimés et le Seigneur exaucera leurs prières. Les seules prières d'un non-croyant que le Seigneur exauce, c'est celles que nous allons faire maintenant. Celles où vous vous repentez de vos péchés et vous demandez à Jésus d'avoir pitié de vous. Vous lui demandez de devenir votre sauveur et votre Seigneur personnel en prenant la décision d'abandonner l'amour du monde, d'abandonner cette vie qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ, de renoncer à vous-même, de porter votre croix et de suivre le Seigneur tous les jours de votre vie. Voilà le genre de personne que le Seigneur veut. Il veut être le seul Seigneur de votre vie. Le voulez-vous? Votre salut et celui de vos bien-aimés en dépendent. Baissez donc votre tête et priez avec moi. Dites seulement, Père éternel, par ce message, tu m'as saisi et convaincu de péché par ton esprit. Au secours, Père éternel, aie pitié de moi et enlève mon iniquité. Je reconnais mes transgressions et je veux vivre désormais rien que pour toi seul. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu venu dans ce monde. Tu t'es livré en rançon sur la croix pour moi. Tu as versé ton sang précieux pour me racheter. Mort et enterré, tu vaincus la mort en ressuscitant le troisième jour. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie. Viens dans mon cœur et justifie-moi. Sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Détruis la puissance du péché dans ma vie. Remplis-moi par ton Esprit Saint. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à œuvrer nuit et jour par l'intercession, par le témoignage, par une vie modèle pour que tous mes bien-aimés soient sauvés, comme tu me l'as promis. Merci parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, je suis Abanga Onana. C'est une joie au ciel pour cette décision que vous venez de faire. Que le Seigneur Jésus-Christ réprime Satan dans votre vie et dans celle de vos bien-aimés. Qu'il vous remplisse par son Esprit Saint. Qu'il guérisse toutes vos maladies. En son nom, je déterre tout ce qu'il n'a pas planté dans votre vie. Et que le feu du Saint-Esprit le consume. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, si nous ne nous voyons pas dans ce monde, nous nous verrons bientôt quand la trompette de l'enlèvement va sonner, quand le Seigneur viendra chercher les siens. En attendant, tenez ferme, priez pour la paix de Jérusalem et pour la nation d'Israël. Une fois de plus, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Draw me close to you.